Il paraît que je n'arrive pas le bonjour, pensa Guccio, dont la mauvaise humeur ne faisait que grandir. Il monta les marches du seuil, et se guidant sur les voies, pénétra dans une salle sombre, aux murs de pierre et au plafond à poutres. Une jeune fille qu'il ne prit pas la peine de regarder vint à sa rencontre. « Je viens pour affaire, et voudrais parler au maître de Cresset, » dit-il. « Je suis Marie de Cresset, mes frères sont là, et ma mère aussi, » répondit la jeune fille d'une voix hésitante, en montrant le fond de la pièce. « Mais ils sont fort retenus pour l'heure. »«
N'importe, j'attendrai, » dit Guccio.
Et pour affirmer sa volonté, il alla se planter devant la cheminée et tendit sa botte au feu. Au bout de la salle, on criait ferme. Encadré de ses deux fils, l'un barbu, l'autre glabre, mais tous deux grands et rougeaux, la dame de Cresset s'efforçait de tenir tête à un quatrième personnage dont Guccio comprit bientôt qu'il était le prévôt lui-même. Madame de Cresset, ou dame Eliabelle pour le voisinage, avait l'œil brillant, la poitrine forte, et portait une quarantaine généreuse en chair dans ses vêtements de veuve.
« Messire Prévôt, cria-t-elle. « Mon épouse est endettée à s'équiper pour la guerre du roi, où il a gagné plus de meurtrissures que de profits, tandis que le domaine sans homme allait comme il pouvait. Nous avons toujours payé la taille et les aides, et donné l'aumône à Dieu. Qui a mieux fait dans la province ? Qu'on me le dise. Et c'est pour engraisser des gens de votre sorte, messire Portefruit, dont les grands-pères allaient nu-pieds dans les ruisseaux, qu'on vient nous piller. »
Guccio regarda autour de lui. Quelques escabeaux rustiques, deux chaises à dossier, des bancs scellés au mur, des coffres, et un grand bafflant à courtine qui laissait apercevoir sa paillasse, constituait l'ameublement. Au-dessus de la cheminée était accroché un vieil écu aux couleurs déteintes, le bouclier de bataille de feu sire de Cresset.
« Je ferai plainte au comte de Dreux !» continuait Dame Eliabelle. « Le comte de Dreux n'est point le roi, et ce sont les ordres du roi que j'accomplis !» répondit le prévôt. « Je ne vous crois point, messire. Je ne veux point croire que le roi ordonne de traiter comme malfaiteurs des gens qui ont la chevalerie depuis 200 années, ou bien alors le royaume ne va plus guère. »«
Au moins, laissez-nous du temps, » dit le fils barbu. « Nous paierons par petites sommes. » »«
Finissons ces palabres. Du temps, je vous en ai donné, et vous n'avez point payé, » coupa le prévôt.
Il avait les bras courts, la face ronde et le ton tranchant.
« Mon labeur n'est point d'entendre vos griefs, mais de faire rentrer les dettes, » continua-t-il. Vous devez encore au trésor 330 livres. Si vous ne les avez point, tant pis, je saisis et je vends. »
Guccio pensa, ce gaillard a tout juste le langage que je m'apprêtais à tenir, et quand il sera passé, il ne restera guère à prendre. Mauvais voyage décidément, faut-il me mettre tout de suite de la partie. Et il se sentit de la hargne envers ce prévôt malvenu qui lui coupait l'herbe sous le pied. La jeune fille qu'il avait accueillie était demeurée non loin de lui. Il la regarda mieux. Elle était blonde, avec de belles ondes de cheveux qui sortaient de sa coiffe, une peau lumineuse, un corps fin, droit et bien formé. Guccio dut reconnaître qu'il avait trop hâtivement médit d'elle. Marie de Cresset, pour sa part, semblait fort gênée qu'un inconnu assistât à la scène. Il n'arrivait pas tous les jours qu'un jeune cavalier d'agréable visage et dont les vêtements disaient assez la richesse, passât par ses campagnes. C'était vraiment malchance que cela se produisît justement quand la famille se montrait sous son plus mauvais jour. Là-bas, au bout de la salle, la discussion se poursuivait.
« N'est-ce pas assez de perdre son époux, qu'on doive encore payer 600 livres pour conserver son toit ? Je ferai plainte au comte de Dreux, » répétait Dame Eliabelle.
« Nous vous en avons déjà versé 270, que nous avons dû emprunter, » dit le fils barbu.
« Nous saisir, c'est nous réduire à la famine, et nous vendre, c'est nous vouloir mort, » dit le second fils. « Les ordonnances sont les ordonnances, » répliqua le prévôt. « Je sais mon droit, je fais la saisie et je ferai la vente. »
Vexé comme un acteur dépossédé de son rôle, Guccio dit à la jeune fille « Ce prévôt m'est bien odieux. Que vous veut-il ? »
« Je ne sais, et mes frères guère davantage. Nous comprenons peu à ces choses, » répondit-elle. « Il s'agit de la taille de mutation après le trépas de notre père. »
« Et c'est pour cela qu'il réclame 600 livres ?» dit Guccio en plissant le front.
« Ah, messire, nous avons le malheur sur nous, » murmura-t-elle.
Leurs regards se rencontrèrent, se retinrent un instant, et Guccio crut que la jeune fille allait pleurer. Mais non, elle tenait bon contre l'adversité, et ce ne fut que par pudeur qu'elle détourna ses belles prunelles bleu sombre.